La première ligne à haute tension date de 1891 en Allemagne. L'électricité, qui est si naturelle pour les humains du XXe siècle, a une longue histoire et une longue évolution jusqu'à aujourd'hui, où l'on met en place d'ailleurs d'autres moyens que le nucléaire pour sa distribution. En tout cas, on peut parler de l'une des inventions les plus importantes de l'humanité. À l'occasion des 80 ans, cette année du ciel, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, Histoire en Touraine évoque le parcours de l'électricité et de l'électrification de notre région en compagnie de Renan Viguier, spécialiste en la matière et professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Là aussi, on va reprendre les tout débuts de l'histoire de l'électricité. Même si ça naît, on va le dire entre guillemets, à la fin du 19e siècle, c'est plutôt pendant l'entre-deux-guerres que l'électricité va se démocratiser. On est encore loin de Électricité de France, hein, d'EDF. Hein.
Oui, on est encore loin. On a les premières sociétés qui commencent à se concentrer, c'est-à-dire que ces initiatives individuelles un peu éparses.
Justement, ces entreprises d'électricité, elles sont dirigées par qui, comment ?
À souvent des grands industriels régionaux. C'est le cas par exemple donc, de la compagnie chinoise d'électricité, hein, qui est implantée à Chinon, mais pas uniquement, et qui fait, elle est connue parce qu'elle fait des grandes publicités. Il y a des vidéos qui sont assez intéressantes à regarder. On y voit des publicités pour l'électrification de la ferme, et donc on peut voir comment...
Alors, ce n'est pas la première fois, Renan, que vous nous parlez justement de la ferme. Oui. On est assez loin de penser éventuellement à cela, mais dans les premiers temps, on a électrifié les zones rurales et les fermes. Les fermes agricoles.
On a pu le faire, c'est vrai, et en plus, on a pu proposer, enfin présenter l'électricité comme un moyen de lutter contre l'exode rural.
D'accord.
C'était une énergie qui permettrait peut-être de fixer les populations un petit peu plus à la ferme et un peu moins à la ville.
Ça, c'est intéressant, oui. Donc, en fait, ce sont des entreprises privées qui, au départ, distribuent l'électricité.
Tout à fait, c'est le cas. Et pour faire la promotion de cette source d'énergie, donc pour réussir à imposer l'électricité face au charbon ou alors même à la force animale, hein, faut pas l'oublier, elle reste encore très présente dans les campagnes. Donc il y a des publicités qui sont mises en avant et on fait vraiment on fait la promotion de cette facilité qui va être apportée par l'électricité dans tous les travaux de la ferme.
L'histoire en Touraine sur France Bleu Touraine.
À l'époque, on est dans les années 20, ça veut dire que l'énergie principale encore dans ces années-là, c'est le charbon, c'est les énergies fossiles encore.
Ouais, tout dépend où vous vous trouvez, Denis. En fait, si vous êtes à la ferme, peut-être que ça peut être tout simplement une paire de chevaux ou alors des bœufs que vous utilisez pour tout simplement pour vos travaux de tous les jours.
D'accord. Et sinon, à la ferme, on se sert de l'électricité pour les machines. Comment ça se passe ?
On peut s'en servir pour les machines. Alors, c'est un peu la vision utopique et c'est pour ça que ces publicités de l'entre-deux-guerres, elles sont assez intéressantes parce que, en fait, on sait bien que concrètement, on ne s'est pas promené avec un générateur et dans les champs, mais elles essayent de pousser à cette consommation-là.
Est-ce que c'est un luxe à l'époque? Comment l'électricité est considérée par la population?
C'est clairement un luxe et c'est un luxe qui est mis en avant d'ailleurs. Alors moi, j'ai une.
Mais à l'époque, est-ce qu'on pense déjà que c'est une solution d'avenir ou pas?
Ah, on se projette beaucoup. Il y a un chercheur très intéressant qui a travaillé sur les futurs qui avaient été imaginés. Donc il a travaillé par exemple sur les ouvrages de science-fiction, se disant et s'il n'y avait pas le charbon? Et les auteurs de science-fiction imaginent souvent que le charbon sera remplacé par l'électricité. L'électricité charrie toute une série de fantasmes sur le futur. C'est très intéressant à étudier.
Donc à l'époque, je reviens sur mon propos. Donc l'électricité est réservée aux riches. Et c'est assez extraordinaire. En même temps, c'est magique. Hein.
C'est un luxe qui est mis en avant, je vous le disais. Moi, j'ai travaillé sur les Pyrénées. Dans les Pyrénées, les stations pyrénéennes mettent en avant cette électrification. Donc, il faut montrer les lignes et c'est assez intéressant puisque sur les affiches de publicité, par exemple, on met en avant le réseau électrique. Puisque pour le touriste, c'est une preuve qu'il y aura le chauffage, l'éclairage. Donc, c'est un signe de distinction. C'est vraiment, vraiment un luxe à ce moment-là.
Donc, dans les années 20, en France et chez nous en Touraine, on sait déjà... L'électricité, c'est l'avenir.
En tout cas, c'est ce que c'est de nous dire les sociétés qui font la promotion de l'électricité, tout à fait. Oui, oui.
À l'époque, elle est produite de façon très humble, hein, évidemment. Hein.
Oui, 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 c'est pour des usages. Alors, bon, quand il s'agit d'usages de force, comme les usines, là, c'est autre chose. Dans la vie quotidienne, c'est la cuisine, c'est l'éclairage, peut-être même pas de toutes les pièces.
Renan Viguier, merci d'être notre invité cette semaine. C'est le moment de le dire, hein, pour nous éclairer sur l'histoire de l'électricité en Touraine, de l'électrification de notre région. Je le rappelle, hein, vous êtes aussi professeur d'histoire-géographie en région parisienne à Saint-Denis.
France Bleu Touraine à Château-Renaud sur 105.
Il a sa petite boutique. Il multiplie les pains dans le film plastique. C'est un gars bien, un rien, excentrique, comme souvent les fils uniques. a son petit commerce. Il offre des pépins aux filles sous la verse. Donne le bras à la dame qui traverse. Un gars moderne en jean et Converse. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd sous sa veste de toile, il a son gilet pare-balles. Et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Il a une classe folle. Il dit des mots qui envoûtent, qui s'envolent par-dessus les toits, les paraboles. Il dit faut surtout pas qu'on t'affole. Il parle les mains jointes de son père au ciel, de sa mère une sainte qui aurait pu marcher sans laisser d'empreinte. Il dit soyez cool, n'ayez crainte. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd sous sa veste de toile, il a son gilet pare-balles. Et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans élégant. C'est pas du tout qui vous pensez, lui il a 35 ans passé. Sa fiancée Marie Marlène, il la voit à chaque fin de semaine. Il a des amis bien placés au comptoir de certains cafés. La bande avec laquelle il traîne, ça tourne autour de la douzaine. Il leur dit que tout finira bien par changer, que tout finira bien, que tout finira bien par changer. Il leur dit que tout finira bien par changer, que tout finira bien, que tout finira bien par changer. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni
du tout dernier album de Francis Cabrel, ça s'appelle Le Fils Unique. Un peu de pub et puis dans un instant, on rallume la lumière.
Des idées de sortie, des coups de cœur à partager, pensez au répondeur de France Bleu Touraine. Vous organisez un événement, une manifestation, une fête, une soirée spectacle.
Bonjour France Bleu.
Venez nombreux, merci.
Pensez au répondeur de France Bleu Touraine. Pour informer toute la Touraine et faire de votre fête une réussite, laissez dès maintenant votre message au 02 47 36 37 38.
France Bleu présente Le Présent d'abord, le nouvel album de Florent Pagny. Le Présent d'abord, un nouvel album intime et serein dans lequel Florent Pagny chante le présent et ses bonheurs. Florent Pagny, Le Présent d'abord, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Radio France, partenaire du prix Philippe Chaffanjon. Vous êtes journaliste ou reporter de moins de 40 ans? Participez à la 5e édition du prix Philippe Chaffanjon. Si en 2017, vous avez réalisé un reportage multimédia diffusé par un site de presse français ou haïtien, inscrivez-vous jusqu'au 15 décembre pour ce prix remis par la présidente du jury, Florence Aubenas. Toutes les infos sur le prix Philippe Chaffanjon sont sur radiofrance.fr.
Cette semaine, l'histoire en Touraine se penche, si j'ose dire, sur l'histoire de l'électricité en Touraine. Un dossier tout à fait passionnant, une histoire extraordinaire, racontée par Renan Viguier, notre invité dans cette émission. Renan, je le rappelle, hein, vous aimez le monde de l'électricité. Vous êtes d'ailleurs chercheur en histoire de l'électricité. Et vous enseignez également l'histoire et la géographie en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. On sait que les choses vont commencer vraiment à progresser au niveau de l'électrification dans les années 20. Ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'électricité dans dans les années 30 et 40.
Il y a un point qui est assez intéressant. On pourrait parler évidemment des restrictions de consommation qui sont liées forcément au contexte de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît assez bien. Il y a un point qui est intéressant, c'est celui sur la lumière, puisqu'à ce moment-là, en fait, et ça renverse complètement ce qu'on connaît aujourd'hui, la lumière, c'est la sécurité pour nous aujourd'hui. Et à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent le noir qui est la sécurité. Donc on doit éteindre la lumière pour éviter les bombardements. Tout à fait. Oui. C'est assez intéressant.
Mais est-ce que l'Allemagne, est-ce que les alliés, est-ce que les différentes armées se disent il faut absolument qu'on progresse avec l'électricité pendant cette guerre?
Alors l'électricité n'est pas à proprement parler une énergie de cette guerre. Donc non. En revanche, elle peut être un moyen de cibler. Et d'ailleurs, à Paris, on imagine construire un faux Paris plus loin pour que si jamais les Allemands à un moment essayent de bombarder, se trompent et bombardent ce faux Paris. Donc on imagine vraiment faire le noir pour se mettre en sécurité.
Mais à Paris, on a l'électricité. Hein. La preuve, c'est qu'il y a des couvre-feux, évidemment. Il y a le couvre-feu tous les soirs, y compris sur toutes les grandes villes de France. Donc ça veut dire que quand on est en 1939-1940, la plupart des foyers sont équipés déjà ou pas?
Oui, dans les grandes villes, à cette date-là, les foyers sont équipés.
Alors, il y a une date très importante, c'est l'année 1946.
Oui, 1946, c'est donc l'immédiat après-guerre, et c'est la décision de nationaliser toutes les compagnies d'électricité françaises et de créer donc ce géant national que sera EDF.
L'histoire en Touraine, Denis Cuillier et son invité.
Pour bien vous comprendre, ça veut dire que c'est comme pour le chemin de fer, il y a plusieurs sociétés privées qui distribuent le courant dans leur région.
Exactement, c'est tout à fait ça, et ces sociétés vont être nationalisées. Donc on rachète les actifs et on négocie pour savoir combien vaut telle usine, combien vaut telle ligne, etc.
La création d'EDF, ça va être aussi un vrai progrès pour la technique, pour les techniques?
C'est une mainmise politique plus forte sur le secteur de l'électricité, ça c'est certain. Et ensuite, c'est la volonté de créer une entreprise qui serait un fleuron national, une grande entreprise multinationale. EDF a, dans ses premiers temps, un objectif aussi international de s'ouvrir, de développer l'électricité dans d'autres pays.
Et la plupart des pays européens font comme la France, c'est-à-dire qu'ils s'organisent avec un seul organisme d'État?
Non, c'est très français, très jacobin, et puis ça correspond complètement au contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Hein, donc ça veut dire que dans les autres pays, ça reste privé, la distribution électrique?
Ça peut rester privé. Quand il y a une entreprise publique, elle n'est pas en situation de monopole, et donc elle est en concurrence avec d'autres entreprises privées.
Je présume que la création de EDF, ça va être aussi une forme de cohérence de la distribution.
Et ça pose des questions aussi sur ce qu'étaient les territoires de l'électricité avant la nationalisation. Sur la Touraine, par exemple, EDF le fait dans tous les départements. On reçoit des ingénieurs d'EDF qui viennent discuter avec les grandes forces vives du département pour savoir quelles vont être les limites, les frontières de la direction régionale d'EDF.
Justement, en vous écoutant, je me dis que l'évolution de la distribution électrique, ça va aussi créer des métiers.
Totalement, des métiers d'ingénieurs, du commerciaux, du marketing aussi, tous ces métiers auxquels on ne pense pas forcément quand on voit l'électricité.
Comme beaucoup de nouveautés, l'humain a toujours peur de la nouveauté, mais est-ce que l'électricité est rapidement un moyen sécure pour les gens?
Oui, alors aujourd'hui c'est vrai que quand on pense électricité en France, on pense souvent nucléaire et donc on imagine tous les risques. Il faut replacer ça dans le contexte historique. Imaginez que l'électricité vient en remplacement du charbon ou du gaz, et donc là forcément il y a une sécurité qui est bien meilleure.
On est bien d'accord. Renan Viguier, merci d'être notre invité cette semaine sur France Bleu Touraine et dans l'histoire en Touraine pour nous raconter ce parcours passionnant, celui de l'électricité dans notre région.
Pour réécouter et podcaster les